30, 13h.
Entrez sans frapper sur la première.
Qu'on embrasse évidemment au passage. Thierry Michel est notre invité aujourd'hui. Bonjour Thierry.
Bonjour.
Bienvenue dans cette émission. L'Empire du silence, c'est votre nouveau film, le 11e film que vous réalisez sur le Congo. Ça fait 30 ans que vous allez filmer cette région. On vous noie notamment parmi ceux qui feront date. Mobutu, roi du Zaïre, Congo River, Katanga Business, L'homme qui répare les femmes, évidemment La colère d'Hippocrate sur Denis Mukwege, et L'Empire du silence qui sort aujourd'hui, qui est un film bilan. Finalement, on a l'impression que ça va être votre dernier film sur le Congo, comme s'il y avait d'autres sujets qui vous attendent, parce qu'il n'y a pas que le Congo dans votre vie de réalisateur et de documentariste, mais c'est un film important, un film bilan. Pourquoi ? J'aimerais qu'on écoute d'abord un des protagonistes de ce film, c'est un personnage dont vous êtes très proche, c'est Denis Mukwege, prix Nobel de la paix évidemment, c'est lui l'homme qui répare les femmes depuis plus de 2 décennies maintenant dans un hôpital protégé d'ailleurs par les casques bleus parce qu'il est menacé de manière permanente. C'est lui qui répare les femmes qui se sont faites violer au Congo, parce que c'est évidemment une arme de guerre.
Je m'appelle Denis Mukwege, je viens d'un pays le plus riche de la planète. Pourtant, le peuple de mon pays est parmi les plus pauvres du monde. L'abondance de nos ressources naturelles, or, coltan, cobalt et d'autres minéraux stratégiques, alimente la guerre, source de la violence extrême et de la pauvreté abjecte en République démocratique du Congo. Le peuple congolais est massacré depuis plus de 2 décennies, au vu et au su de la communauté internationale. Les habitants de mon pays ont désespérément besoin de la paix.
On parle de centaines de milliers de morts, on parle probablement de millions de morts au Congo.
De victimes, en tout cas.
De victimes, en tout cas, bien sûr, de ces guerres à répétition qui ont des origines très diverses, qui ont des raisons aussi très, très diverses. Et en fait, Denis Mukwege va dire à un moment dans son discours, on va l'entendre tout à l'heure, qu'en fait, on connaît les noms des gens qui sont responsables de ça, et ils sont d'ailleurs aujourd'hui à la tête de l'armée congolaise. Il y a même un moment dans le documentaire qui est fou, Thierry Michel, on dit qu'il faut avoir tué 1000 personnes pour être général de l'armée congolaise aujourd'hui. La première partie du film, finalement, parce que c'est un film qui cherche des solutions, la première partie du film, vous allez nous expliquer ce qu'il se passe, en fait. Est-ce que vous pouvez expliquer, depuis la fin du génocide du Rwanda, qu'est-ce qu'il se passe au Congo, les différentes raisons qui font que c'est devenu cet enfer sur Terre.
Mais ce qui est clair, c'est qu'à la suite du génocide, les génocidaires, mais aussi des centaines de milliers de civils hutus, ont fui le Rwanda, évidemment, parce qu'ils se doutaient bien qu'il y aurait une revanche.
Petite revanche,
Voilà. Ils se sont installés dans des camps le long de la frontière congolaise, ce qui n'est pas normal. Des camps de réfugiés doivent être placés au moins à 50 km des frontières, ce qui a créé une tension forte, et l'intervention des armées rwandaises de Paul Kagame au Congo, au départ pour détruire ces camps et essayer d'éliminer les anciens génocidaires qui restaient une menace. Ils en ont profité pour essayer d'exterminer les civils, et ça a entraîné une fuite de centaines de milliers de civils hutus à travers le Congo. Ils vont faire un périple invraisemblable de 2000 km à travers les forêts. Beaucoup vont mourir en route et d'autres vont être exterminés dans de nombreux massacres qu'on raconte dans le film, jusqu'à arriver à la frontière nord du pays, à Mbandaka, où ça va être le massacre final.
Ouais.
Ça, c'est la première guerre. Alors, on peut dire qu'à ce moment-là, il y a déjà 2 armées qui sont entrées au Congo, c'est les Ougandais et les Rwandais. Mmh. Et ils ont découvert que ce pays, comme le dit le docteur, est
une bijouterie à ciel ouvert.
Exactement, et qui a des minerais stratégiques et autres, mais enfin tous les minerais qu'on peut imaginer, de l'or au niobium.
Le cobalt, le coltan.
Oui, oui, mais tout l'uranium, tout, absolument, c'est le coffre-fort des minerais de l'humanité. Le coltan, 70% des réserves mondiales de coltan, c'est ce qu'on a tous dans notre téléphone ou notre laptop, sont dans la seule province du Kivu. Donc, à ce moment-là, ça a été une deuxième guerre de prédation qui a commencé. Et puis, à partir de là, ça a été la déliquescence. Des groupes armés se sont dit, mafieux, se sont dit, oui, il faut occuper les carrés miniers, se sont multipliés, et ça a été massacre sans suite. Et alors, on arrive à cette situation paradoxale, où au Congo, il y a une guerre entre les Rwandais et les Ougandais pour s'approprier les richesses diamantifères.
Ouais. Il y a une scène absolument incroyable, un carrefour entre deux rues. On vous dit, là, il y avait les Rwandais, il y avait les Ougandais. La guerre de six jours.
Oui, 6000 obus sont tombés sur les civils.
6000 obus qui tombent sur la ville en six jours. C'est vraiment la fin du monde. Et pourtant, Thierry Michel, on connaît les noms des gens qui ont pris des décisions. Ce sont évidemment des présidents successifs. C'est Mobutu, c'est évidemment les pères et fils chez
Kabila.
C'est des généraux de l'armée. On a leur nom. Et j'ai été rechercher un truc que vous dites dans le documentaire. Mais dans son discours où il va rechercher son prix Nobel à Stockholm, Denis Mukwege dit ceci.
Cette enquête nomme explicitement des victimes, des lieux, des dates, mais élude les auteurs. Ces rapports du projet Mapping, établi par le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits humains, décrit pas moins de 617 crimes de guerre et crimes contre l'humanité, et peut-être même des crimes de génocide. Qu'attend le monde pour qu'il soit pris en compte? Il n'y a pas de paix durable sans justice. Or, la justice ne se négocie pas. Ayons le courage de jeter un regard critique et impartial sur les événements qui sévissent depuis trop longtemps dans la région des Grands Lacs. Ayons le courage de révéler le nom des auteurs des crimes contre l'humanité, pour tout simplement éviter qu'il continue d'endeuiller cette région martyre. Ayons le courage de reconnaître nos erreurs du passé. Ayons le courage de dire la vérité et effectuer le travail de mémoire.
En gros, ayons le courage de donner ces noms. Il y a un rapport Mapping qui explique, qui a été fait par l'ONU entre 1993 et 2003, qui donc explique ce qui se passe exactement.
Il y a eu des enquêtes. 617 crimes graves, 617 classés, crimes contre l'humanité, crimes de guerre, voire génocide.
Il y avait les noms des gens qui ont été perpétrés. Ils sont expurgés du rapport. Pourquoi ?
Ah là, ça c'est invraisemblable. C'est invraisemblable que 25 ans après certains crimes, on ne puisse pas, alors qu'on connaît tout de certains crimes, le modus vivendi, le nom des victimes, le lieu, l'heure, tout. Mais on ne sait pas qui en ont été les auteurs.
Pourquoi ?
Ah, ça c'est la grande question, évidemment.
Vous avez
pourquoi
une idée ?
Mais, bien sûr, il y a des raisons géopolitiques, bien sûr, parce qu'il y a des alliances qui se sont faites. Il y a, il ne faut pas le nier, une culpabilité par rapport au génocide rwandais, où on a abandonné les Rwandais eux-mêmes. Ils ont été massacrés alors que les Nations Unies auraient pu intervenir, et pas seulement les Nations Unies.
Ouais. Donc en gros, c'est difficile d'aller dire aux Tutsis aujourd'hui, on a vu le fait que vous étiez en train d'être génocidé, vous avez pris votre revanche, on va vous punir pour votre revanche, alors qu'on a fermé les yeux, évidemment, sur votre génocide.
Exactement.
C'est compliqué.
C'est un peu le phénomène aussi Israël-Palestine. Ouais. On est dans la même logique. Il y a aussi les intérêts miniers, parce que cette déstabilisation sert aussi au pillage des ressources du pays. Voilà, il y a tout un ensemble de choses, mais totalement surréalistes. Imaginez, on est en 65 et on nous dit les nazis ont fait un crime horrible dans un village en Ardennes, ils ont brûlé les maisons, ils ont brûlé des gens vifs, ils ont démantelé, démembré... Mais on ne peut pas savoir qui en étaient les auteurs.
Il n'y a qu'en
Afrique, il n'y a qu'au Congo qu'on peut trouver des situations aussi absurdes.
Et donc vous, ça vous énerve, et qu'est-ce que vous faites? Vous faites un documentaire,
bien sûr,
où vous montrez ces gens, et puis vous citez leur nom très clairement.
Le docteur a eu le courage de faire ce discours historique de prix Nobel. Lui-même, objectivement, ne cite pas les gens. Mais ça, je le comprends, puisqu'il est prisonnier de son hôpital et qu'on a déjà tué plusieurs de ses proches, dont son successeur, le directeur gynécologue comme lui, qui devait prendre sa succession, tué à la sortie de l'hôpital.
Vous donnez les noms dans le film, vous
montrez
les images.
Voilà, on en donne les principes.
C'était votre devoir.
Oui, absolument.
Le but de ce film ?
Absolument. Et je pense que maintenant, les Nations Unies doivent sortir cette liste fragiliser, mettre ces criminels face à eux-mêmes, ils n'ont qu'à faire leur valise pour aller dans des paradis, pas fiscaux, mais des paradis comme on connaît. Et à ce moment-là, au moins, l'Union européenne, les États-Unis peuvent prendre des sanctions extrêmement précises et ciblées sur ces personnes-là. C'est un premier pas, hein, y a beaucoup de choses à faire, ce n'est que le premier pas.
Sébastien, vous avez vu aussi le documentaire de Thierry Michel.
Oui, et on se sent vraiment humble devant votre travail, c'est le moins qu'on puisse dire. Il y a cette chose que moi je ne connaissais pas, je ne connais pas grand-chose de l'histoire de ces guerres congolaises, mais on voit à un moment donné, vous expliquez que les civils aujourd'hui commencent à déposer plainte et à donner donc leur à déposer plainte et à faire des dépositions.
C'est le début.
Ouais. Et on voit une femme qui dépose plainte, qui raconte la mort de son fils. Et on lui dit à un moment donné, ici on ne pleure pas, si c'était pour pleurer, tu aurais dû rester chez toi.
Oui, c'est tellement...
La scène est folle.
Mais oui, mais c'est parce que la violence est tellement devenue quotidienne qu'on se demande même pourquoi elle pleure, puisque c'est tellement banal de massacrer les gens.
Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, quand même, les civils ont ce courage-là d'aller...
Alors c'est très, très, très intéressant, voilà. Ça se passe dans ces massacres plus récents, au Castres, qui ont été d'une barbarie sans nom, qui n'ont plus aucune logique. Parce qu'à un moment donné,
c'est
la dissolution de l'état de droit devient aussi une perversion des mentalités. Et l'être humain, tout d'un coup, n'a plus ses repères et fait des choses que je pense même des animaux ne feraient pas.
Ouais.
Et donc, au Kassai, qui a vécu ses pires barbaries, il y a aujourd'hui un phénomène important, c'est surtout les femmes se sont regroupées collectivement pour faire un travail de résilience. Elles ont été soutenues. Alors ça, c'est important aussi par la société civile et surtout par le barreau et des collectifs d'avocats. Ouais. Et de résilience, elles sont devenues des résistantes. Ouais. Et là, on a l'amorce de quelque chose et donc elles obligent l'appareil judiciaire militaire, entre autres l'auditeur en militaire, à commencer à mener...
Et ça débouche sur quoi pour le moment?
Si la pression continue aussi forte, ça peut déboucher évidemment sur des procès, c'est ce qu'on espère. Ouais. Mais là, il faut qu'il y ait à la fois... Les Congolais qui, très courageusement, aujourd'hui, osent monter au créneau face à une justice arbitraire. Il faut l'opinion internationale, il faut les grandes institutions. C'est pour ça que je pense que ce film doit être absolument montré dans les grandes institutions internationales pour que des décisions soient prises.
Voilà, vous allez montrer le film au Sénat américain, vous allez montrer le film à l'Union européenne. Visiblement, à l'ONU, c'est un peu plus compliqué, Thierry Michel, mais je vous reprendrai sur ça après.
Absolument.
Marcel Leroy.
Je voulais dire... C'est une constante dans votre travail depuis toujours. Vous donnez la parole aux personnes qui, souvent, n'ont pas même le droit à la parole, que ce soit des sidérurgistes au temps des grandes grèves.
Bien sûr.
Et puis maintenant, en Afrique, mais au fond, c'est toujours la même question, la question de l'humanité. Ces personnes qui vous font confiance, qui nous parlent, qui vraiment, on a l'impression, au travers de votre film, que ces personnes s'adressent à nous. Elles sortent du côté sec des chiffres et des statistiques. Que vont-elles devenir, ces personnes-là, dès l'instant où elles se sont exprimées d'une manière aussi publique? C'est un courage
absolument, oui, c'est héroïque même.
Oui,
bien sûr qu'on les suit, bien sûr que j'ai prévenu les Nations Unies de qui étaient les personnes qui pourraient avoir des suites, évidemment, oui, ça, c'est un travail qu'on fait. Je dirais malheureusement, celle qui a été le plus loin, le plus courageuse, qui est un journaliste d'investigation... Congolais, un des rares grands journalistes d'investigation, il est décédé bêtement d'un diabète parce qu'on décède au Congo de rien du tout. C'est pour lui que j'avais le plus peur. Parce que là, il cite vraiment le numéro 2 de l'armée, le général Amissi, général 4 étoiles au Congo, quoi, quand même, un des plus puissants personnalités congolaises. Il cite aussi l'ex-chef d'état-major rwandais, donc il n'y va pas de...
Non, il n'y va pas de main morte. Hein.
Et il cite Kabila.
C'est Kabila, très clairement.
Commandant Hippo, à l'époque.
Exactement, et vous allez rechercher des photos de Kabila jeune. Le film doit être montré dans les instances internationales, parce qu'il n'y a évidemment que les tribunaux internationaux. Des lois et des tribunaux internationaux qui vont pouvoir punir ces gens-là.
Il peut y avoir des tribunaux nationaux.
Et des tribunaux nationaux.
Évidemment, il faudrait que le politique
exactement.
Suive.
Pourquoi à l'ONU, il y a une réticence à montrer le film, Thierry Michel? C'est ce que j'ai entendu, moi, dans les couloirs.
Oui, je suis très, très surpris. On a été montré très vite le film avant tout le monde aux Nations Unies à Genève. Et ce frein, pour ne pas indisposer, parce que, évidemment, là...
Ne pas indisposer qui?
Clairement, le pouvoir congolais, le pouvoir, surtout le pouvoir rwandais, le pouvoir ougandais, et tous ceux qui ont gravité autour.
Et le film en Congo, est-ce qu'il peut avoir un, le film alors, en le Congo, film, alors, peut ça, avoir un destin formidable. Ou zéro destin?
Non, non, ça c'est formidable quand même. J'ai pu aller le montrer, et pas n'importe où. Je l'ai montré au Palais du Peuple, c'est-à-dire là où se tiennent les séances du Parlement.
Ça c'est quand même fou.
Hein. C'est dingue.
Oui, c'est extraordinaire, d'autant plus qu'on avait commencé par me refuser le visa, interdire le film. Donc il y a autour du président Tshisekedi des forces antagonistes, bien sûr qu'il y a les anciens... criminels.
Mais il y a les progressistes qui sont là.
Il y a les autres, donc on ne sait pas bien qui va gagner la partie. Mais on a pu réussir quand même.
Il y a une polémique au Congo sur votre film, Thierry
Michel. Et maintenant, oui, il y a alors une histoire invraisemblable, complètement montée d'un cinéaste, d'un obscur film qu'il aurait fait il y a 7 ans, qui prétend qu'il y a plagiat, et qui, à partir de là, a monté tout un complot pour m'amener en justice. Je suis cité devant la justice congolaise pour faire la saisie et l'interdiction du film. Mmh. Évidemment, c'est un coup monté. Bien sûr.
Bien sûr. C'est un film d'une violence extrême, désolé de le dire, c'est vrai, il y a des images qui sont pratiquement intenables, et c'est pas pour ça qu'il faut pas aller le voir. Il faut aller le voir, parce que c'est un film aussi qui marche vers l'espoir, et qui cherche des solutions, qui donne des pistes. Évidemment, le cinéma ne change pas tout, mais la prise de conscience est quelque chose de capital. Montrer ces choses, et je peux en citer quelques-unes, je veux dire, il y a une scène absolument incroyable d'une femme dont le pied est absolument pourri, qui s'inquiète pour son pied, à côté d'elle, dans des feuillages, un enfant dont tout le monde se fout de savoir s'il est encore vivant ou pas d'ailleurs. Enfin, c'est d'une violence extrême, on se demande évidemment comment des êtres humains peuvent endurer cela et se lever encore. C'est important de le montrer.
Absolument, et je dirais, la séquence qui suit, c'est quand même... Tingi Tingi, c'est tous ces réfugiés menacés, et la haute commissaire,
la commissaire de l'ONU,
la commissaire
qui vient,
de l'Union européenne, à l'aide humanitaire, va là-bas faire un discours pour essayer de soutenir les gens, elle part, on les massacre. Ouais. Et les survivants, on les met dans un train qui est le train de la mort. Alors ces images, elles rappellent quand même d'étranges images de la Seconde Guerre mondiale.
Ouais. Plein d'images de votre film rappellent des images de la Seconde Guerre mondiale.
Les wagons,
les corps entassés, les wagons, etc. C'est absolument terrifiant. Dernière question.
Mais il fallait les montrer, je pense, parce qu'il faut des pièces à conviction aujourd'hui. Il ne suffit pas de dire les rapports ne suffisent plus. Les rapports, il y en a déjà eu. Des déclarations sur l'impunité. Tout le monde est d'accord qu'il faut l'impunité. Mais quand on dit oui, d'accord, mais alors donnez les noms. Et là, tout d'un coup, les bouches se ferment.
Mais c'est ce que vous dites à la fin du film. Vous dites que peu un film face à un tel désastre. J'imagine que ce film, votre travail, donne un sens à votre existence, Thierry Michel.
Ce qui est déjà pas mal.
Ce qui est déjà pas mal.
À la mienne, sûrement. Oui,
ouais,
c'est vrai. J'ai le sentiment quand même du travail nécessaire, du travail bien fait. Voilà.
Le film est dans les salles. Allez le voir, s'il vous plaît. Il s'appelle L'Empire du silence. Il est signé Thierry et Michel. Il a gagné des prix au Random Festival hier. Prix du meilleur documentaire, prix de la critique également. Félicitations à vous, Thierry.
Merci beaucoup.
Et on vous souhaite des bons rétablissements
Merci à tous pour l'invitation.
C'est important. Merci, Thierry, pour ce que vous faites. Et dans quelques instants, il y aura Marcel Leroy. On va parler de Mary Shelley, de Frankenstein, et ensuite les sorties cinéma.